Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe
et Marie-Lou. Et aujourd'hui, on a un invité spécial, David Couteau de la chaîne YouTube Professeur Board Game.
Merci de l'invitation.
Au menu de l'émission, on fait une entrevue avec notre invité. Par la suite, on vous parle de nos expériences de jeu. On enchaîne ensuite avec notre magasinage. Et on termine, comme à l'habitude, avec un projet québécois qu'on veut vous souligner.
Premièrement, David, pourrais-tu nous parler un peu de ta chaîne et nous expliquer aussi pourquoi tu as décidé de lancer cette chaîne-là? Ça nous intrigue.
J'ai toujours été un passionné de jeux dans mon enfance. C'était surtout les jeux vidéo. Par après, à l'adolescence, j'ai touché beaucoup aux jeux de rôle comme Donjons Dragons, des choses comme ça. Et les jeux de société ont toujours été un peu présents, mais un peu comme tous les enfants jouaient à des jeux, mais pas de façon assidue. Puis tranquillement, là, en vieillissant, c'est devenu un petit peu les jeux que j'ai préféré utiliser comparativement aux jeux vidéo là, qui ont perdu un petit peu des plumes pour moi. Mm-hmm. Et comme je suis enseignant, mais j'ai toujours aimé enseigner des choses aux jeunes. Et dans le fond, en créant ma chaîne, mais j'ai mélangé ma passion pour l'enseignement avec ma passion pour les jeux, d'être capable d'expliquer des jeux à des gens là, pour leur faire découvrir des jeux de société modernes sur ma chaîne YouTube.
Moi, une question que j'aime tout le temps savoir du monde, c'est quoi vraiment ton coup de cœur d'enfance? Quel était ton jeu préféré là, lorsque tu étais plus jeune?
Évidemment, un peu comme tout le monde, j'ai touché à tous les jeux connus, là, comme Monopoly, Jour de paix, Destin, ces choses-là. Mais c'est pas les jeux qui nous restent comme coup de cœur par la suite. C'est des jeux qui sont un petit peu fades, puis qui manquent un petit peu là, de...
Disons que Monopoly nous reste pour sa longueur et son interminabilité de faire une partie.
Et voilà. Mais vraiment, c'est un des premiers jeux qui m'a accroché dans mon enfance, c'était le jeu HeroQuest. C'est un jeu qui ressemble beaucoup à Descent aujourd'hui, si on veut. C'est un peu son ancêtre, un peu le même principe. On a quelqu'un qui fait le maître de jeu, qui gère un scénario avec un donjon. Les joueurs jouent des aventuriers puis essaient de compléter le scénario. C'est vraiment à partir de ce jeu-là que je jouais avec mon frère, mon oncle, des amis. Ça nous a poussé vraiment vers les jeux de rôle, puis d'autres jeux de société un petit peu dans ce genre-là, le genre dungeon crawling un peu. Et un deuxième coup de cœur de mon enfance, c'est le jeu Magic, donc le jeu de cartes très populaire, qui a marqué un petit peu la fin de mon primaire. Ça venait de sortir ce jeu-là, donc je m'étais lancé là-dedans, ce jeu de cartes-là, de construire des decks avec des stratégies différentes et tout ça. Alors c'est vraiment un petit peu les deux jeux, je te dirais, qui ont marqué mon enfance.
On voulait aussi savoir comment tu as découvert les jeux là, du type de ceux qui sont dans ta collection présentement.
Quand j'étais à l'université, j'avais un de mes amis qui est à l'université de Sherbrooke. Et à l'université de Sherbrooke, ils ont un club de jeux, je pense un club de jeux de rôle, mais ils ont aussi des jeux de société là-bas. Mmh. Et c'est un peu comme une bibliothèque. Donc les membres du club peuvent aller là-bas puis louer un jeu, puis ils l'emmènent chez eux, peuvent l'avoir quelques jours, le faire essayer. Donc cet ami-là, qui s'appelle Patrice, m'a fait essayer beaucoup de jeux qui venaient de la bibliothèque du club de jeux de rôle de l'Université de Sherbrooke. Puis c'est là que j'ai connu des jeux comme Carcassonne, Citadelle, Arkham Horror, Les Chevaliers de la Table Ronde, San Juan. Donc c'est vraiment ces jeux-là qui m'ont vraiment mener vers les jeux de société un peu plus modernes.
C'est intéressant, c'est drôle parce que Jean-Philippe et moi, on a tous les deux étudié à l'Université de Sherbrooke puis on connaissait pas l'existence de ce club-là, mais avoir su, on aurait sûrement découvert les jeux avant.
On n'a pas décidé de découvrir les jeux, là, comme on a déjà mentionné dans d'autres épisodes, c'est vraiment avec l'imaginaire et la revanche que là, ça a plus débloqué parce qu'il faut découvrir qu'il y a vraiment une panoplie de jeux qui existent et non en allant au Archambault, on sait pas là qu'on va. Quoique, dans les dernières années, ils commencent à un peu pousser vers les jeux un peu plus modernes, qu'on pourrait dire.
Ils ont même des jeux de société au EB Games maintenant, le magasin de jeux vidéo.
Ça vient de
plus en plus populaire sur le marché.
Oui, ça c'est sans aucun doute, ça gagne en popularité.
Il y en a partout,
Quand on parlait justement, il y a vraiment une panoplie de jeux, et moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ton type de jeu préféré? Ça peut être mécanique ou quoi que ce soit, là.
J'ai un faible pour tous les jeux qui sont coopératifs. Pour quelqu'un comme moi qui a joué à des jeux de rôle comme Donjons Dragons vraiment longtemps, qui joue encore d'ailleurs aujourd'hui, c'est des jeux où lesquels les joueurs doivent travailler ensemble. Donc, l'aspect coopératif dans ces jeux-là me rappelle les jeux de rôle. Puis évidemment, j'ai les cercles d'amis aussi qui aiment ce style-là. Donc, ça fait qu'on achète beaucoup de jeux coopératifs. On aime ça, les défis que ça nous demande aussi, les différentes stratégies qu'on doit relever en équipe. Alors vraiment, les jeux coopératifs, là, vraiment un de mes types de jeux préférés.
Moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi la chose qui te tape sur les nerfs dans les jeux?
Et comme j'aime beaucoup les jeux coopératifs, ce qui peut taper ses nerfs dans les jeux coopératifs, c'est le fameux joueur alpha.
Ah, ouais.
Donc, le joueur qui connaît tout, puis qui dit à tout le monde tout quoi faire, parce que lui, il a plus d'expérience ou il pense qu'il a la meilleure stratégie tout seul. Alors ça, c'est un petit peu quelque chose qui peut me taper sur les nerfs.
Mmh.
En étant un joueur qui a beaucoup d'expérience, oui, je peux comprendre qu'on peut discuter ensemble et essayer de trouver la stratégie ensemble. Mais quelqu'un qui veut toujours imposer son idée, ou surtout sur des nouveaux joueurs, quand on initie des gens à un jeu coopératif, si tu fais tout à sa place, ben, l'expérience de jeu ne sera pas super. Alors c'est quelque chose qui est pas super le fun.
Ouais, puis les jeux coop, c'est vraiment un style de jeu qui fait ressortir les personnalités des gens un peu plus, parce que c'est là qu'il faut collaborer ensemble, donc c'est là qu'on voit qui veut plus prendre le lead, puis qui va plus suivre les autres, ou qui... Une autre chose qui est vraiment intéressante à savoir quand on parle de jeux de société, c'est savoir combien de fois par semaine tu réussis à jouer, parce que des fois on n'a pas toujours le temps, ou aussi à combien de joueurs tu joues le plus souvent, là.
Généralement, ça tourne autour de 1 à 3 fois par semaine là, que j'organise souvent des soirées de jeux de société avec des amis. Et généralement, on est autour de 3 ou 4 joueurs. Et ça m'arrive aussi souvent d'être à 2 joueurs là, avec d'autres de mes amis là, qui partagent ce passe-temps-là aussi.
Tu as mentionné au début de l'entrevue que tu étais enseignant. Moi, je me demandais si tu avais déjà fait des choses dans ta classe en lien avec les jeux de société et comment ça s'était passé.
Depuis environ 2 ou 3 ans, j'organise une activité midi dans ma classe pour faire découvrir des jeux vidéo rétro aux élèves.
Okay.
Les élèves trient beaucoup sur les jeux vidéo de nos jours, mais ils connaissent vraiment pas les jeux à laquelle nous, on est habitués dans notre enfance. Alors, j'emmène mes vieilles consoles, Nintendo, Super Nintendo, dans l'ordre des vieux jeux rétro là, sur Steam, des choses comme ça, pour leur faire découvrir ça. Et tranquillement, aussi, j'ai commencé à emmener des jeux de société, j'ai commencé à en faire acheter tranquillement par l'école pour mon activité midi. Donc, de faire découvrir jeux vidéo et jeux de société en même temps là, aux jeunes.
Mm-hmm.
J'ai fait acheter des jeux comme King of Tokyo, Bang, Love Letter, donc des jeux vraiment simples qui jouent aussi rapidement que les jeunes aient le temps de jouer une partie là, pendant l'heure du midi. Là, avec...
ouais.
Sinon, ils ne feront plus aller à leur cours.
Ils ne sortiraient pas un Mage Knight.
les jeunes trippent vraiment... à découvrir des jeux, que ce soit un jeu vidéo, un jeu de société, les jeunes de voir un à un leur enseignant qui s'intéresse à ce domaine-là, souvent sont très surpris. Mm-hmm. C'est facile de faire un lien avec les jeunes quand ils voient qu'on a cette passion-là en commun, le jeu, peu importe le médium de jeu là, que ce soit.
Puis les jeunes qui participent à tes activités, c'est-tu plus des garçons ou des filles?
C'est beaucoup plus des... on se cachera pas, c'est beaucoup plus des garçons. Là. Des fois, j'ai une ou deux filles qui viennent, okay, mais majoritairement des garçons.
Quand même un certain intérêt.
Mais c'est vraiment une belle initiative. C'est quelque chose que j'aurais aimé ça quand j'étais plus jeune, avoir quelque chose comme ça. Moi, je me souviens, j'étais en sport-études, puis on avait tout le temps 1h30, des fois 2h avant d'aller à notre prochaine activité, sur l'heure du midi. Puis il y avait quand même un espace de jeu où il y avait une table de billard... Il y a du ping-pong, mais aussi il y avait une petite console, il y avait une Super NES, fait que ça arrivait des fois qu'on jouait quand même, mais c'était tout à la même console avec le même jeu avec Donkey Kong. Fait qu'une fois que tu as passé Donkey Kong, on avait fait le tour, mais c'est de quoi j'aurais sûrement apprécié d'avoir quelque chose comme ça. Très je trouve vraiment que c'est une très belle initiative, c'est fun. De voir qu'il y a des initiatives comme ça.
Des fois aussi, que ça peut être des activités que je fais, exemple, la période avant de partir en vacances pour les fêtes, je fais une petite période de jeu dans la classe avec mes élèves à moi, ou à la fin de l'année aussi, des fois, dans les derniers cours de l'année, ben, je peux emmener mes consoles de jeu ou des jeux de société pour faire découvrir ça aux jeunes. Donc, c'est vraiment des activités que les jeunes apprécient beaucoup.
C'est le fun. Puis aussi, il y a beaucoup de jeux de société aussi qui peuvent être éducatifs. Mm-hmm. C'est sûr qu'on parle des fois de plus longs jeux, mais ça peut arriver aussi... qu'on a cet aspect-là dans les jeux.
Mais juste pour donner un exemple, je parlais l'autre jour avec une collègue de travail qui me disait qu'elle avait une petite fille qui, dans le fond, va commencer la maternelle bientôt. Et puis, elle joue à Catan avec ses frères, puis elle disait que ça l'avait aidé à apprendre les mathématiques, là. Elle savait pas encore lire, fait que ses frères, fallait qu'ils lisent les cartes ou les règlements, là, mais elle est capable quand même de jouer à des jeux de plus que son âge. Fait que je trouvais ça bien, là. C'est le fun d'avoir une longueur d'avance avant de rentrer à l'école. C'est très intéressant d'apprendre ça aux jeunes.
Donc, comme tu es un gamer depuis toujours, j'aimerais bien savoir ton jeu coup de cœur qui est un peu moins connu, là, que tu aimerais ça faire découvrir à des jeunes. Là. Un jeu vraiment qui est dans l'ombre, mais qui gagne à être connu.
Tu serais pas surpris que c'est un jeu coopératif, évidemment. C'est un jeu qui s'appelle Dead Man Tells No Tales. Donc, c'est très, assez long comme titre de jeu. C'est un jeu de pirate, thématique pirate. Vous devez aller chercher des trésors dans un bateau pirate qui est en feu. Avec, vous devez affronter les flammes, vous devez affronter les membres d'équipage qui sont des squelettes à bord du bateau. Là, ça fait un petit peu Pirates des Caraïbes, si on veut, là, comme thématique. Ça ressemble beaucoup à Pandémie, mais je trouve que une plus belle saveur, la thématique pirate est un petit peu plus accrocheuse. Il y a un peu plus de choses différentes à faire dans le jeu aussi. Là. Je trouve Pandémie, des fois, ça devient un peu répétitif de... Ben, on gère des cubes rouges, on gère des cubes jaunes, on gère des cubes bleus. Tandis que dans lui, ben, on a plusieurs choses différentes qui fonctionnent de manière différente. Alors, je trouve un peu plus de complexité, là, puis on a aussi une petite mécanique de placement de tuiles où on explore le bateau, on doit configurer le bateau qui va être différent à chacune des parties, là. Donc vraiment, un petit jeu coup de cœur, c'est un jeu que peu de gens connaissent. À part les gens à qui je l'ai montré, si je parle de jeu-là, mais il y a vraiment personne qui le connaît, là.
Découvrir, on va le mettre sur notre liste.
De mémoire, tu sais à peu près à quelle année qu'il est sorti ce jeu?
2015.
Ah ouais.
C'est très récent.
Ok, en plus.
C'est un jeu qui avait été il a été financé à l'aide de Kickstarter, puis qui a ramassé peut-être 50-60 000. C'est comme un petit projet.
Parlant de tes coups de cœur dans les jeux, puis aussi des jeux qui sortent sur Kickstarter, je me demandais s'il y avait un jeu qui n'existe pas, mais que tu aimerais qu'il existe. Est-ce que tu as une idée là, qui te trotte dans la tête, quelque chose comme ça?
Je suis un grand fan du jeu Legendary Marvel, qui est un jeu de cartes, un jeu de deck building. Ils ont fait beaucoup de jeux avec ce système de jeu-là. Ils ont fait Legendary Alien, Legendary Predator, donc ils ont adapté d'autres univers avec le système de jeu de Legendary que j'aime beaucoup. De la manière qu'ils l'ont adapté avec Alien, c'est vraiment une thématique qui suit l'histoire des films, des personnages des films. Alors, le jeu que j'aimerais qu'il soit fait est de prendre le système de Legendary, mais de le mettre à l'univers de Star Wars. Donc, Legendary Star Wars, ça serait vraiment écœurant.
Parlant justement de thème de jeu, tu parlais de Legendary Marvel, Alien, Star Wars. C'est quoi ton thème de jeu préféré?
Évidemment, je suis un grand fan de Star Wars. Alors, quand on me propose un jeu qui a cette thématique-là, c'est sûr que ça va m'accrocher. Mais ça veut pas dire que nécessairement je vais acheter le jeu. Je pense que je mets la barre vraiment haute justement d'un jeu qui va utiliser la bannière de Star Wars, qui est une bannière très très populaire. Faut vraiment que le gameplay soit solide pour que le jeu vraiment vienne que je puisse l'acheter puis le jouer. Mais on est chanceux, les jeux de Star Wars dans les dernières années sont vraiment solides, donc rendent vraiment justice à l'univers. Alors je trouve que c'est une thématique qui est vraiment bien exploitée là, dans les dernières années. Puis les jeux que j'ai comme Imperial Assault, Armada, Rebellion, donc c'est vraiment des jeux là, qui sont solides en gameplay et en plus ont l'univers Star Wars, alors c'est parfait.
On a parlé de ton type de jeu préféré, de ton thème préféré. Pourrais-tu nous dire c'est quoi ta mécanique de jeu préférée?
J'ai un faible pour les jeux de deck building, donc les jeux où on doit acheter des cartes en cours de partie là, pour faire notre paquet de cartes qui évolue avec des cartes de plus en plus fortes. Ça me rappelle beaucoup dans mon enfance quand je construisais des decks pour jouer à Magic, alors de mettre les bonnes cartes ensemble pour faire les différentes stratégies, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, développer des stratégies. Alors je trouve que dans ces jeux-là, chaque partie va être différente des autres parce qu'on n'aura pas la même combinaison de cartes. Ça va nous forcer à justement chercher d'autres stratégies avec les cartes qui sont disponibles. Alors vraiment, les jeux deck building, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Présentement, y a-tu un jeu que tu jouerais là, vraiment à tous les jours? C'est ce jeu-là, à chaque jour, je veux sortir, je veux jouer. Lendemain, surlendemain, tout ça, je veux toujours jouer à ce jeu-là.
Je te dirais le jeu Seven Wonders Duel, qui est un excellent jeu à deux joueurs, qui est vraiment qui joue rapidement, toutes les parties que j'ai jouées sont vraiment toutes serrées, avec les différentes façons là, de gagner. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Tu peux sembler dominer la partie, mais l'autre joueur va aller faire une victoire militaire ou une victoire scientifique. Alors c'est vraiment, là, t'es toujours au bout de ton siège quand c'est à ton tour de jouer. Là, t'as hâte de voir les cartes qui sont en dessous. Donc c'est vraiment un jeu que j'ai toujours eu des belles expériences à chaque partie que je joue. Puis à chaque fois qu'on me propose de jouer, ben j'accepte toujours parce que bon, j'ai pas ce jeu-là dans ma collection, mais je connais quand même plusieurs personnes qui l'ont. Alors j'ai l'occasion d'y jouer quand même assez souvent. Je pense que c'est comme quelqu'un qui fait, exemple, un mot croisé dans son journal le matin. Là, où je jouerais une petite partie de Seven Wonder Duel avec mon café avant d'aller travailler. Ça commencerait bien la journée.
Je suis assez d'accord. On en avait déjà parlé dans le podcast. C'est un de nos jeux préférés. Ouais. On est bien d'accord avec toi. Je pense que c'était exactement la même réponse que quand on a répondu à ces questions-là dans notre premier épisode.
Ben, c'est ton jeu que tu jouerais à tous les jours. Moi, j'en avais d'autres, mais...
OK.
Ouais. Ben, en fait, dans le thème un peu jeu rapide, là, c'était ben, jeu rapide, moi. Jeu moins d'une heure, là, c'était mon jeu que je jouais à tous les jours. Là. Puis d'ailleurs, là, si justement tu veux jouer à tous les jours, j'avais trouvé sur Board Game Geek une version solo. Fait que si tu t'achètes le jeu, puis j'avais trouvé très intéressante avec un dé que tu lances qui enlève des cartes. Et je trouvais que c'était très bien fait. J'ai essayé une fois. Donc, la première impression était très bonne. Dans le fond, tu bats un joueur fictif qui, lui, va chercher des cartes tout le temps, puis il fait un score aussi. Là. On essaie de battre un autre joueur et non de faire le plus de points possible. Donc, pour revenir à ta chaîne, Professeur Board Game, jusqu'à maintenant, t'as deux sections, la section mécanique de jeu puis la section où que tu fais des évaluations de jeu. Mais qu'est-ce qui s'en vient d'autre de nouveau sur ta chaîne?
Excellente question. Évidemment, comme je suis enseignant, l'été, je suis en vacances.
Mm-hmm.
Et ça me laisse le temps là, de partir plusieurs petits projets, là, notamment en lien avec ma chaîne YouTube. Et j'ai des vidéos où je vais avoir des invités qui seront prochainement diffusés. Des vidéos qui vont traiter de top 10. Donc, vous avez une primeur ici.
Ouais.
Il y aura bientôt des vidéos de top 10 sur ma chaîne Professeur Board Game.
D'ailleurs, moi et Marie-Lou, on a participé à un des top 10 de la chaîne de Professeur Board Game. Je vous dévoile pas, on garde le secret pour qu'est-ce que ça va être le sujet du top 10. Donc, je vous invite à suivre la chaîne de David pour savoir qu'est-ce qu'il y en a à propos de ce top 10.
Prochainement aussi, on va avoir un nouveau collaborateur sur ma chaîne qui va faire ses propres séries de vidéos. Donc, des vidéos qui seront axées sur les jeux qui sont sur la plateforme Kickstarter, des jeux qui sont en campagne de financement ou des jeux qui ont été en campagne de financement là, qui proviennent du site web Kickstarter. J'ai un ami là, qui est un spécialiste dans le domaine et qui va commencer à faire des vidéos sur ma chaîne.
C'est très fun tout ça. C'est fun de voir que ton projet évolue, que tu ajoutes des choses à ta chaîne, que tu ajoutes beaucoup plus de contenu. Moi, c'est ce que je trouvais vraiment formidable sur ta chaîne, c'est que tu avais beaucoup de contenu très récurrent chaque semaine. Donc ça, c'était chapeau pour toi. Là. Je sais que c'est beaucoup d'ouvrage là, de mettre autant de contenu là, pour les gens qui font aussi ce type de choses-là. Donc vraiment bien.
Donc, merci beaucoup, David, d'avoir participé à notre entrevue. Tes réponses étaient vraiment très intéressantes. Ça nous a fait découvrir plein de choses. Puis, on va surveiller, c'est certain, le nouveau qui s'en vient sur ta chaîne, dont le top 10 auquel on a participé. On a bien hâte de voir ça. Et puis, on va enchaîner avec la suite du podcast. Et David reste avec nous.
Ouais.
Donc, il va pouvoir commenter aussi les jeux, nos dernières expériences de jeu. S'il a déjà joué à ces jeux-là, il va pouvoir ajouter ses commentaires. Puis, donc voilà, merci encore une fois.
Merci à vous pour l'invitation. Ça me fait plaisir de faire partie du podcast. Et je reste avec vous pour le reste de l'émission.
On va enchaîner avec nos expériences de jeu. Donc, dans cette chronique, comme à chaque épisode, on parle des jeux qu'on a joués dans les dernières semaines. On commence avec le jeu Pathfinder: The Rise of the Rune Lords. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, sorti en 2013, écrit par Mike Selinker, Chad Brown, Tanis O'Connor, Paul Peterson et Gabby Whaling, publié par Peso Publishing. Et le but, c'est de battre le vilain de chacun des scénarios. Dans le fond, c'est un jeu où on va avoir une campagne à compléter avec plusieurs scénarios. Dans ce jeu-là, dans le fond, on va à chaque scénario, il va y avoir des lieux à visiter. On incarne des personnages qui ont des habilités d'attaque, de défense, de toutes sortes d'habilités qui permettent de vaincre des monstres ou d'aller chercher des artefacts ou des items. Et le but dans chacun des lieux va se trouver un vilain et des henchmen qu'il va falloir vaincre. Le but est de vaincre le vilain et de l'éliminer. Et à ce moment-ci, on va recevoir parfois des rewards pour avoir complété le scénario qui vont nous permettre d'évoluer notre personnage, augmenter son nombre de cartes qu'il va pouvoir en main, parce que c'est un jeu de deck building où on a un certain nombre de cartes déterminées par la carte de notre joueur. Et aussi des habilités spéciales. Des fois, on va pouvoir augmenter. Dans le fond, pour battre les monstres, on va lancer des dés et on va pouvoir, avec les rewards qu'on va avoir, augmenter de par exemple, de plus 1 sur un lancer de dés. Donc, c'est un jeu qui est très complet, une belle aventure immersive où à chaque fois qu'on joue, on augmente dans le scénario. Ça arrive parfois qu'on ne réussit pas les scénarios, mais on peut les refaire. Et aussi, une chose très importante dans ce jeu-là, c'est si on meurt, eh bien, on perd toutes les habilités qu'on avait accumulées au cours du jeu qui sont très pertinentes, très... On en a besoin, dans le fond, de ces habilités-là pour continuer dans les missions qui sont plus difficiles.
Mm-hmm. Ça m'est arrivé une fois avec mon personnage, que ça faisait quand même plusieurs parties que je jouais avec lui. J'ai pas fait attention, je suis morte, puis ça m'a vraiment frustrée. Il a fallu que je reparte de zéro. Mais dans les dernières parties qu'on a jouées, par exemple, là, j'étais contente parce que mon personnage, au début, pouvait pas garder d'armes dans son inventaire. Puis là, la dernière partie qu'on a fait, ça m'a fait gagner, dans le fond, le droit d'avoir une arme. Donc là, à chaque fois que je commence une nouvelle partie, j'ai le droit d'avoir une arme. Ça m'aide vraiment beaucoup à me battre parce que mon personnage est un peu moins fort en combat, plus fort dans d'autres affaires. Puis c'est vraiment ça qui est le fun dans ce jeu-là. Chaque personnage a ses habilités qui lui sont propres. Donc, il faut essayer de faire une équipe de personnages qui va être bonne ensemble aussi pour pouvoir être capable de vaincre les différents types de monstres qu'on pourrait avoir, ou des fois il y a des obstacles aussi à passer au travers. Puis moi j'aime vraiment beaucoup le fait que de partie en partie on améliore notre personnage, on améliore notre deck avec les items qu'on trouve et les armures et les armes. Donc on a vraiment l'impression de vivre une aventure. Puis on peut aussi, on joue souvent à deux joueurs et c'est vraiment le fun. Puis on peut aussi jouer à plus de joueurs. Puis je pense que ça serait vraiment intéressant de jouer avec d'autres mondes, d'avoir différentes campagnes, différents personnages. Parce que là, on joue tout le temps les deux mêmes personnages, mais il y en a vraiment plusieurs de disponibles dans le jeu. Fait que j'ai bien hâte de jouer d'autres parties, puis peut-être avec d'autres joueurs, voir comment ça va être différent. Mais je pense que ce jeu-là a quand même une bonne rejouabilité, même si c'est des scénarios qui vont se répéter, dans le fond. Vu que l'histoire est un petit peu moins importante, c'est vraiment la manière qu'on joue les cartes qui va être importante, puis ça peut être vraiment différent à chaque partie, tout dépendant des personnages qu'on a pris. Donc, très intéressant, puis je suis vraiment contente qu'on ait recommencé à jouer parce que ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas joué à ce jeu-là.
Effectivement, puis comme Alou disait, il faut vraiment avoir une bonne équipe de personnages, parce que moi, mon personnage, j'ai certaines des habilités, je pense que c'est la dextérité. Non, c'est pas la dextérité, c'est un autre des habilités que lorsqu'il y a une carte qui demande d'avoir, mettons, 8, et moi j'ai juste un des 4, donc c'est impossible que je réussisse à avoir cette carte-là ou à fermer. Dans le fond, dans le jeu, il faut aussi fermer les lieux pour empêcher le henchman d'aller dans ces lieux-là. Donc on fait comme piéger le henchman, le vilain, oui, dans le jeu. Donc c'est important d'avoir vraiment une complémentarité dans les personnages qu'on joue.
Oui, puis une autre affaire aussi qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut envoyer les personnages à la bonne place. Là. Des fois, il y a des endroits qui peuvent être fermés seulement en faisant un test d'une certaine habilité. Puis comme Jean-Philippe disait, des fois, il y a des personnages que même s'ils lancent le dé, c'est impossible qu'il y ait le résultat suffisant pour pouvoir faire le test. Fait qu'il faut se parler en équipe puis établir, ben toi, tu vas aller là, moi, je vais aller là. Après ça, on va se retrouver à tel endroit puis on va essayer de battre cet endroit-là. Fait que il y a beaucoup de communication entre les joueurs, beaucoup d'interactions. On peut s'échanger des objets aussi. C'est ça. Très intéressant.
J'ai pas eu la chance d'essayer le jeu de cartes de Pathfinder Rise of the Runelord. Par contre, j'ai joué longtemps au jeu de rôle de Pathfinder. On a fait une autre campagne là, qui s'appelle Rite of the Righteous, qui je pense qui a été adapté aussi là, dans le même système de jeu là, pour le jeu de cartes. Je trouve qu'elle a vraiment le fun, le jeu. J'aimerais bien l'essayer. Les jeux de campagne, tout ça, avec les personnages évolutifs que Marie-Lou aime bien. Moi aussi, c'est quelque chose que je trouve le fun. Ça me rappelle le RPG, de monter de niveau, d'acquérir des nouveaux objets, des nouvelles armes. Donc, l'évolution là, dans un jeu campagne, là, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment le fun.
Mm-hmm. C'est justement quelque chose que j'aimerais découvrir aussi, les jeux de rôle Pathfinder, là, sur lesquels est basé le jeu de cartes, là. C'est pas le jeu original, là. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses dans cet univers-là à découvrir. Ça a l'air vraiment intéressant et très vaste.
Ouais, c'est un univers assez grand, assez riche,
Ouais.
avec un panthéon, avec des dieux, des villes. Chaque campagne que Pathfinder publie, se passe dans un endroit différent, là, de leur univers. Donc vraiment, là, un bel univers que Pezo a réussi à créer.
Alors, c'était le jeu Pathfinder The Rise of the Rune Lord.
Un autre jeu auquel on a joué récemment, c'est Villages of Valeria, un jeu pour 1 à 5 joueurs sorti en 2016. C'était une campagne Kickstarter qu'on a supportée. On attend présentement le jeu là, qu'on devrait recevoir sous peu. Présentement, on joue à la version Print and Play. Ça a été créé par Rick Holzgraf et Isaias Valejo, publié par Daily Magic Games. Et le but est d'accumuler un certain nombre de bâtiments et d'aventuriers pour ultimement faire des points. Dans le fond, on construit un village avec des cartes et sur les cartes, il y a un bâtiment. Il y a aussi une ressource. Donc, on peut décider de soit intégrer la carte à notre village ou soit de la jouer en ressource pour pouvoir ensuite construire d'autres bâtiments. C'est un jeu où il faut gérer les cartes qui sont dans nos mains. Est-ce qu'on décide de les jeter pour aller en chercher d'autres dans le milieu de la table? Ou est-ce qu'on décide de les jouer, on les garde pour plus tard? On peut toujours piocher dans le milieu puis aller chercher les cartes que l'adversaire a discardées également. Il y a quelque chose aussi d'intéressant au niveau des ressources. On peut utiliser les ressources qu'on a dans notre propre village, mais on peut aussi, en payant des pièces d'or, aller chercher, ben pas aller chercher, mais utiliser temporairement les ressources qui sont dans le village de l'adversaire. Mais jusqu'à maintenant, ce mécanisme-là, on l'a moins utilisé quand on a joué.
Ben,
Ça serait à essayer.
c'est aussi le fait que lorsque tu joues dans l'adversaire, tu lui donnes de l'argent, lui
Oui,
va pouvoir
c'est sûr qu'on aide
récupérer cet
l'adversaire en
argent.
faisant ça. Fait qu'en jouant à deux, peut-être que c'est moins intéressant de faire ça parce qu'on donne une longueur d'avance pour justement aller chercher les aventuriers que j'ai mentionnés au début. Ceux-là coûtent de l'or. Donc, c'est important de garder notre or pour aller chercher les aventuriers parce que les aventuriers ont différents pouvoirs. Puis, il y en a quelques-uns qui permettent de faire des points à la fin de la partie, tout dépendant du nombre de bâtiments de tel ou tel type qu'on a dans notre village.
Dans Village of Valeria, ce que j'aime, c'est vraiment, il y a une mécanique qui est présente dans certains jeux, c'est qu'on peut suivre les actions des adversaires. Donc, si l'adversaire décide de piger des cartes, bien, on va pouvoir piger des cartes aussi. Puis après ça, ça va être à nous de jouer encore. Fait que, il y a vraiment cette mécanique-là. Puis il faut vraiment, souvent quand on suit, par contre, on n'a pas les mêmes bonus. On a un petit peu des moins bons bonus. Donc, il faut gérer un peu notre argent, nos ressources qu'on va utiliser. Parfois aussi, si on suit, par exemple, une action de construire, ça nous permet de construire un de nos bâtiments. Et lorsque ça revient à notre tour tout de suite après, lorsqu'on joue à deux joueurs, bien évidemment, on récupère l'argent qu'on a utilisé pour les ressources et on va pouvoir reconstruire à nouveau. Donc, ça nous permet des fois de construire assez rapidement et de terminer la partie parce que c'est vraiment un nombre limite, dépendant du nombre de joueurs qui déclenchent la fin de la partie, là, quand on a un certain nombre de cartes. Donc, c'est vraiment ce que j'aime de ce jeu-là. Assez rapide, très plaisant. On a encore là, beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là, même si on est juste avec la version print and play où les cartes sont arrondies parce que j'ai utilisé du papier assez mince et ça glisse un peu tout le temps, mais c'est super le fun. J'ai vraiment hâte de recevoir la vraie version, de jouer avec les vraies cartes, puis qui ont un design qui est vraiment super beau.
Est-ce que vous allez la recevoir bientôt?
C'est supposé être pour septembre 2016, si tout va bien. C'est la première fois que je back un jeu de Daily Magic Games, donc j'ai hâte de voir s'ils sont à temps dans les délais. Puis on a aussi backé le jeu Quest of Valeria, qui est un autre jeu
Dans le même univers.
dans le même univers
Okay.
qu'on reçoit, je pense, à partir de en 2017, là, si je ne me trompe pas. Donc j'ai hâte de voir ces deux jeux-là.
Est-ce que tu as supporté beaucoup de projets sur Kickstarter dans les dernières années?
Ça fait peut-être 6 mois là, que je regarde plus activement, à chaque jour en fait. Pas plus activement, c'est vraiment à chaque jour, je passe vraiment tous les projets un à un. Et au début, c'est ça que je faisais, là, je vais un peu plus, je scrolle peut-être un peu plus vite, là, on le voit avec l'image ou avec qu'est-ce qui nous attire, qu'est-ce qu'on a le plus de chances de backer. Mais je mets quand même beaucoup d'étoiles pour juste me rappeler, j'aime ça. Je suis un backer plus de fin de campagne, dans les dernières 48 heures où on voit qu'est-ce qui a atteint comme stretch goal et tous les bonus qu'on peut avoir en backant. Donc, en supportant, pardon, pour les anglicismes. Mais jusqu'à maintenant, j'ai environ supporté à peu près 7-8 projets là, dans les 6 derniers mois. Environ un par mois, à peu près, là, en moyenne. Là. Ouais.
C'est plate parce qu'on n'est pas encore rendu à en recevoir un par mois.
Ouais.
On est toujours en attente.
Ouais, c'est ça. Kickstarter, c'est vraiment tout le temps à peu près 6 mois à 1 an d'attente, là, souvent. Mais c'est pas vrai, on a quand même reçu le jeu Avignon, Clash of Pope.
Ouais, on l'a reçu.
Le premier qu'on a, un des premiers qu'on a supporté.
Mm-hmm.
Donc, ça termine Village of Valeria. On va enchaîner avec le jeu Expo 1906. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs sorti en 2015, créé par Remo Canzadori et Nestor Mangon, publié par Gotha Games. Le but, c'est d'accumuler le plus de points de prestige. C'est un jeu qui allie plusieurs mécaniques ensemble. Dans le fond, on est des inventeurs qui va construire, qui va développer des inventions, ce que les inventeurs font.
Pour l'expo de 1906.
Pour l'expo de 1906, il va y avoir des jurys à cette exposition-là qui va falloir, dans le fond, les différentes inventions qu'on va faire. Il y a deux types, il y a les types plus mécaniques et ceux-là plus électricité. Dans les inventions qu'on va construire, qui... à la fin de la partie, on va avoir plus de points si les jurys sont plus du côté des inventions mécaniques ou des inventions électriques. Comment qu'on va construire ça? Dans le fond, on a un plateau de jeu un peu à la style patchwork où on va chercher des tuiles de différentes formes avec les inventions qu'on place sur notre plateau. Et il y a aussi des tuiles avec justement les objets qu'on a besoin, soit des engrenages, des marteaux, etc. Il y a différents items qu'on va placer à côté des inventions qu'on veut construire et il faut que ça matche, que ça soit conséquent avec ce qui est sur l'invention pour que cette invention-là soit construite. Donc, ça ne veut pas dire que lorsqu'on l'a placée sur notre plateau qu'elle est construite, il faut vraiment l'entourer des bons éléments qui peuvent des fois être partagés entre deux tuiles.
Ouais, il faut vraiment bien gérer ces tuiles de ressources comme ça, si on peut dire, là, parce que moi, les miennes étaient mal placées, puis j'avais comme compris qu'à un moment donné, je pouvais les déplacer, mais finalement, j'avais comme une limite de qu'est-ce que je pouvais déplacer, puis ils étaient juste vraiment très, très mal placés. Il faut vraiment voir à long terme, dans ce jeu-là, qu'est-ce qu'on va placer à côté pour pouvoir réutiliser les tuiles qui vont avoir les bonnes ressources entre deux inventions communes. Si on met ces tuiles au bon endroit, on va avoir besoin d'aller moins en chercher. On va pouvoir réutiliser celles qu'on a déjà, donc c'est intéressant.
Il y a un autre aspect dans ce jeu-là où on a une track, une piste dans le fond de où on va augmenter notre savoir dans chacune des 6 disciplines qu'il y a. Je me souviens plus par cœur. Mais ces disciplines-là, dans le fond, c'est des logos. Si on les a sur les inventions construites, ça nous donne plus de points. Et souvent, les parties jouent autour de 30 points. Donc, les points sont assez... on n'en accumule pas beaucoup. Donc, c'est important d'avancer sur ces pistes-là. Et si on atteint la fin de ces pistes-là, ça nous donne des bonus de fin de partie. Des fois, 3 points pour tel type d'invention réalisée, etc.
Il y a quand même plusieurs choses à gérer dans ce jeu-là, mais de la manière que les tours se jouent, c'est assez simple. On fait juste jouer une carte qui nous permet de faire une action, mais on ne peut pas jouer la même carte action que l'adversaire vient de faire au tour précédent. Donc, c'est important à garder en tête, mais somme toute, ça reste quand même assez simple.
Puis, c'est ce que je voulais ajouter, dans le fond, c'est que, justement, les cartes d'action qu'on va jouer, c'est nous à... C'est un des joueurs à mener qui va décider « Ah, ça, c'est la fin de la ronde. » Parce que c'est la carte qu'on joue qui nous donne des bonus de fin de ronde et qu'on détermine, c'est là que cette ronde-là se termine. Donc, il y a vraiment une stratégie de savoir à quel moment c'est mieux pour nous que la ronde s'achève. Alors, c'était le jeu Expo 1906.
Avant de continuer avec nos expériences de jeu, on se demandait, David, s'il y avait un jeu que tu as joué récemment que tu aimerais nous parler.
Justement, j'ai eu la chance récemment d'essayer le jeu Sight, un jeu qui a quand même beaucoup d'engouement là, dans les dernières semaines là, sur Internet avec ce jeu-là. Malheureusement, il n'est pas disponible en magasin encore. C'est seulement les gens qui l'ont supporté sur Kickstarter qui ont reçu leur copie. Et j'ai mon ami, le spécialiste Kickstarter, l'avait supporté, évidemment. Alors, on l'a essayé à deux. C'est un jeu qui joue de 1 à 5 joueurs, qui va sortir ben, en 2016 prochainement, créé par Jamie Stegmaier, publié par sa compagnie Stonemaier Games. Le but du jeu est d'amasser le plus d'argent, ce qui semble assez anodin là, dans, comme but de jeu, mais la manière qu'on ramasse l'argent, il y a un paquet de manières différentes. C'est un jeu qui est un petit peu dur à décrire. On a un plateau de jeu. Le plateau de jeu est divisé en territoires et on commence avec notre héros là, dans nos territoires avec des petits ouvriers qui sont placés aussi sur les territoires. Chaque joueur va recevoir un plateau de jeu individualisé avec des petits cubes à certains endroits. Donc le plateau est très bien fait. Les endroits où mettre les cubes sont renfoncés, alors c'est vraiment instinctif là, comment les placer au départ. Et le plateau est fait qu'il y a quatre actions disponibles pour le joueur qui sont sur son plateau, qui sont décrites avec des icônes. Donc vraiment facile à apprendre à jouer, savoir qu'est-ce que les actions font. Et quand on fait l'action dans le haut de notre plateau, on peut aussi faire l'action qui est en bas. Mais l'action qui est en bas coûte des ressources. Alors au début de la partie, on ne peut pas la faire. Et bon, plus on avance dans la partie, plus on va être capable de faire les deux actions en même temps et d'avancer plus rapidement ou de ramasser des choses pendant le jeu. On peut ramasser des ressources sur le plateau en activant nos ouvriers qui produisent des ressources. Dans ce jeu-là, les ressources restent sur le plateau et on les contrôle quand on a des ouvriers sur le plateau. Alors si mon ouvrier entre en combat, mais la personne qui prend le territoire va contrôler les ressources maintenant. Alors ça, c'est quelque chose qui est un petit peu particulier dans ce jeu-là. Et chaque joueur va avoir 6 étoiles qu'il va devoir essayer de placer. De la manière que les étoiles vont être placées, c'est qu'en faisant une des parties du jeu au maximum, on va pouvoir placer une étoile. Et dès qu'un joueur va avoir mis sa 6e étoile, on va arrêter la partie. Par exemple, si un joueur fait toutes les améliorations de son plateau, ça lui permet de mettre une étoile. Si un joueur construit ses 4 mechs, des espèces de machines qu'il peut utiliser pour combattre, s'il construit ses 4, il va pouvoir mettre une étoile. Donc s'il fait s'il fait un combat, il peut mettre une étoile aussi. Alors il y a plusieurs façons là, d'aller faire les étoiles si on met tous nos ouvriers sur le plateau aussi. Ce qui est particulier dans ce jeu-là, c'est qu'on a une échelle de réputation. Et si notre réputation est basse, ben nos étoiles à la fin de la partie vont valoir moins de points. Alors, il faut gérer notre réputation. Plus elle va être haute, plus nos étoiles vont valoir cher, plus nos territoires vont valoir cher aussi à la fin de la partie, qui vont nous donner le plus d'argent possible. Alors, vraiment, beaucoup de choses qui se passent dans ce jeu-là. C'est un jeu qui semble intimidant, mais la manière que le jeu est construit, les plateaux de joueurs avec les icônes, c'est vraiment un jeu qui est instinctif, que les gens vont pouvoir apprendre facilement. C'est un jeu qui vient d'une campagne Kickstarter. Les composantes sont exceptionnelles. Tout le côté artistique aussi, c'est vraiment wow, vraiment beau. C'est un style artistique, c'est un peu un univers Première Guerre mondiale, mais comme avancé technologiquement avec des robots qui combattent. Okay. C'est comme un peu un mélange de deux mondes. Un peu un univers steampunk, qu'on appelle. Wow. Alors, je vraiment apprécie ma première partie du jeu site. J'ai hâte de rejouer peut-être avec plus de joueurs pour voir comment ça va se passer.
Mm-hmm. Ça dure à peu près combien de temps, une partie? Ça?
À 2 joueurs, ça nous a pris peut-être 1h30. Considérant que c'est notre première partie aussi, des fois, on hésite à... Bon, c'est un peu plus long faire nos tours de jeu.
Donc, c'est un jeu à peu près qui va durer de 1 à 3 heures si t'es plus de joueurs.
Pour moi, il va tourner autour de 2 heures.
OK. C'est bon. C'est un jeu que j'ai vraiment vu passer beaucoup sur Facebook, des photos de tout le monde qui recevait leur jeu 7. Moi, comme je disais tantôt, je vais sur Kickstarter à peu près 6-7 mois, puis c'est un jeu de l'année dernière. Donc, j'avais pas vu passer ce jeu-là, donc j'étais vraiment intrigué. J'ai vraiment hâte de l'essayer aussi, ce jeu-là. Puis c'est une thématique encore là de guerre un peu qui m'attire toujours. Donc, j'ai hâte de l'essayer. Puis avec ce que t'en dis, j'ai encore plus le goût de... d'y jouer. Alors, c'était le jeu Sight.
On va continuer avec le jeu Mage Knight, un jeu pour 1 à 4 joueurs, sorti en 2011, créé par Vlada Shvatil et publié par WizKid Games. Et le but est d'être le chevalier, le Mage Knight, avec le plus de points de gloire. Et puis, on a essayé ce jeu-là pour la première fois en coop. Les autres parties qu'on avait jouées, c'était compétitif, mais on avait conclu un pacte qu'on s'attaquait pas parce que les règles du jeu sont vraiment compliquées. Donc, on avait dit qu'on laissait tomber un peu cet aspect-là pour le moment. Puis là, on l'a essayé en version coop, donc il nous restera juste à essayer le compétitif, mais pour de vrai.
Et la version solo que je vais essayer
ce soir. Ah oui, c'est vrai, il y a une version solo également. C'est un jeu d'aventure et d'exploration où on est une espèce de chevalier avec des pouvoirs spéciaux. Donc, on a un deck de cartes avec les actions qu'on peut faire dans notre tour. Puis, on se promène sur le plateau de jeu. On peut décider d'aller explorer des choses qui se retrouvent sur les tuiles, par exemple des ruines ou des donjons, des tours de mages ou des monastères. Et chaque endroit où on peut aller va nous permettre de faire différentes choses.
Dans chacun des endroits qu'on va visiter, justement, comme disait Marie-Lou, parfois on peut recruter d'autres chevaliers qui vont venir être avec nous, dans le fond, notre armée.
C'est plus des alliés, là. C'est pas nécessairement des chevaliers. Ça peut être justement des moines. Dans un monastère, on va aller chercher des moines qui vont avoir des pouvoirs spéciaux.
Ouais, ça, c'est des personnages, dans le fond, qui vont s'ajouter à nous, qui sont placés devant nous. On a un certain nombre de personnages qui peuvent être alliés à nous, dépendant du niveau qu'on est rendu, du niveau de notre chevalier. Et ces personnages-là, on va pouvoir les utiliser dans les combats ou parfois pour leur habileté spéciale de redonner de la vie à notre personnage, etc. Là, c'est vraiment des personnages qu'on doit aller chercher parce qu'on peut pas passer le jeu, réussir les quêtes sans ces personnages-là qui sont vraiment primordiales pour réussir à vaincre les gros monstres finales, souvent les dragons et tout ça dans les villes. C'est un jeu qui est vraiment complexe en soi, comme Marie-Lou le disait. Beaucoup de règlements, c'est pour ça qu'une première partie, c'est mieux de le jouer sans les combats, vraiment juste voir, bon, si je veux explorer une ruine, qu'est-ce que ça me donne, quel type de combat ça va donner, etc. Là, c'est vraiment, il y a aussi une partie d'introduction dans le livret des règlements là, qui permet justement à chaque tuile qu'on découvre de voir qu'est-ce que fait ce tuile-là. Donc, ça nous permet de lire les règlements pas à pas au lieu de tout d'un coup et d'absorber toute cette information-là qui est difficile à digérer là, d'une seule shot. Moi, c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. Le jeu est quand même très long. Dernière partie qu'on a joué en coop, on l'a commencé, je pense, à 4 heures dans l'après-midi, puis on l'a terminé à minuit, je sais plus. On a soupé entre tout ça, puis ça a été quand même assez long, mais vraiment une aventure vraiment extraordinaire. Là. J'ai vraiment apprécié ce jeu-là.
Oui, j'ai vraiment aussi aimé jouer en coop, là, parce que c'était dans les premières parties qu'on a jouées, vu qu'on s'attaquait pas, puis tout ça, on dirait qu'on s'est pas rendu à attaquer les grosses villes, là, parce que c'est souvent ça le but des scénarios. Il y a différents scénarios qu'on peut jouer, mais souvent, le but, c'est d'aller essayer de battre des villes dans lesquelles il va y avoir plusieurs unités, dont souvent des dragons. Donc là, j'ai aimé ça parce que vu qu'on était deux puis qu'on pouvait se mettre ensemble pour les combats, on a pu vivre cette expérience-là d'aller attaquer les châteaux. Donc là, dans une prochaine partie, je pense que ça va être plus facile de faire ça. On voit comment ça se passe. Mm-hmm. Puis même si Jean-Philippe mentionnait que les règlements sont très longs puis qu'il y a beaucoup de choses à assimiler, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, ça va vraiment bien. Mm-hmm. Là, c'est juste au départ beaucoup de lecture, mais une fois que ça s'est passé, là, quand on sait jouer, il n'y a vraiment pas de problème. Mais c'est ça, c'est la durée de jeu qui rebute un peu. Là.
Puis il y a des belles cartes d'aide-mémoire là, pour chacun des lieux qu'on visite qui sont bien faits, qui t'as pas besoin de retourner dans les règlements. C'est juste ça. Quand on a rejoué, j'ai été obligé de retourner un peu juste pour la séquence de départ, tout ça, le placement. Mais au cours des parties qu'on va jouer, c'est sûr qu'on joue pas à toutes les semaines parce que bon, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est pour ça ce jeu-là, des fois, il faut se rafraîchir un peu la mémoire à chaque fois qu'on joue. Mais tout de même, un excellent jeu. Et je sais que toi, David, tu y as joué, donc j'aimerais savoir ton opinion.
Oui, effectivement, la durée, c'est quelque chose. Il faut vraiment avoir le temps là, de pouvoir l'expérimenter au complet. Ce que j'ai vraiment aimé, évidemment, c'est l'aspect deck building qu'on retrouve dans le jeu, qu'on a notre paquet de cartes de départ. Dépendant de notre personnage aussi, on va une carte différente. Puis on peut aller acheter d'autres cartes là, en cours de partie là, pour se différencier des autres joueurs. Donc ça, c'est vraiment... instaurer ça dans un jeu d'aventure, c'est vraiment bien, vraiment le fun. Ça ajoute un beau côté stratégique. Le plateau, l'exploration, c'est vraiment très bien, très le fun. Les figurines sont très belles aussi. C'est un un des points forts là, du jeu, là, la qualité de ces figurines-là aussi. Là. Donc, c'est vraiment un bon jeu. J'ai seulement joué une fois, par contre. J'aimerais ça le réessayer probablement dans le futur.
Ouais. Ça prend, comme on dit, ça prend beaucoup de temps pour pas planifier qu'on va jouer à d'autres jeux dans la même soirée. Là, c'est un investissement complet. Alors, c'était le jeu Mage Knight. On va poursuivre avec le jeu Stockpile, un jeu pour 2 à 5 joueurs, sorti en 2015, créé par Brett Sobel et Seth Van Orden, publié par Novo Games. Le but, c'est d'être l'investisseur avec le plus d'argent à la fin de la partie. Le jeu est vraiment très simple. On va recevoir, dans le fond, il va falloir faire des investissements sur différentes compagnies. Sur le plateau de jeu, dans le fond, on a leur valeur marchande qui va bouger au cours de la partie comme le marché boursier. Et au début, à chaque tour de jeu, dans le fond, on va recevoir 2 cartes et on va devoir les placer sur différentes piles, une face cachée et une face découverte. Et à partir de là, chaque joueur va miser sur une des piles qu'il veut recevoir, qu'il veut acheter. Dans le fond, on va miser soit 1$, 3$, 5$ et c'est l'argent qu'on possède. Et chaque joueur commence la partie avec un personnage qui a un certain montant d'argent dans son portefeuille. Et il y a certains trucs intéressants, comme il y a le Billionaire Bill, je pense, qui lui commence avec beaucoup d'argent pour faire référence à Bill Gates. Il y en a un aussi, un personnage, je ne me souviens plus comment on l'a appelé, mais c'est vraiment Donald Trump, mais je ne me souviens plus c'est quoi son pouvoir. oui, c'est qu'il paye... Lorsqu'on se place sur une tuile, mettons, il faut payer 10$, ben lui, il paye la case en dessous. Là.
OK.
Donc, il paye moins cher.
Oui, il paye moins cher que tout le monde. Ouais. Donc, le jeu présente vraiment une belle mécanique où aussi on reçoit 2 cartes de prévision boursière. Donc, on sait un peu qu'est-ce qui va se passer si, mettons, la compagnie jaune va cracher de 2 ou va augmenter de 3. Au prochain tour. Et dans le fond, on va avoir une série après la sélection des cartes. On va pouvoir décider de vendre des actions ou les garder. Et il y a moyen aussi, lorsque la valeur de l'action atteint la limite du plateau, elle double. Donc, sa valeur double. Et par contre, elle redescend la piste et est plus propice à crasher complètement. Donc, si sa valeur atteint 0, toutes les actions qu'on a en notre possession, on les perd. Donc, c'est vraiment il faut vraiment penser à notre affaire avec ce que les autres font. Est-ce qu'on pense que la compagnie va crasher et se débarrasser de nos actions pour faire le plus d'argent possible? Parce que le but, c'est ça à la fin de la partie. Et aussi, il y a à la fin de la partie... pour les actions qu'on a conservées, lui qui en a le plus de chacune, ben, il reçoit 10 000 supplémentaires, qui est quand même très important. Donc, c'est un jeu que j'adore. Plus on est joueur, plus c'est le fun, parce que plus on est joueur, tous les joueurs reçoivent des prévisions boursières et il y en a moins d'indéterminés. Donc, l'heure du tour a vraiment une importance, parce que si on est le dernier joueur à pouvoir vendre dans un tour, ben, si les autres joueurs ont tous vendu leur jaune, ça se peut qu'il va cracher et qu'on est mieux de vendre notre jaune. Mais ça peut être du bluff aussi que ben on veut que les autres vendent parce qu'on sait qu'il va monter beaucoup. Mais on en vend seulement une, mais il nous en reste 3 aussi que les autres n'ont pas vu. Donc, il y a vraiment une belle mécanique dans ce jeu-là. Jeu assez rapide, 45 minutes, là, vraiment un coup de cœur ces derniers temps. Le jeu Stockpile.
Ça fait longtemps que je l'ai placé dans ma wishlist, ce jeu-là. Je le regarde. J'ai regardé des vidéos. Je trouve que la mécanique des marchés boursiers, le bluff là-dedans, tout ça, je trouve que c'est des mécaniques de jeu qui sont super intéressantes. C'est que souvent, ça se retrouve dans des jeux qui sont très complexes ou très longs. Je pense que Stockpile a réussi à vraiment condenser ça là, dans un jeu qui est rapide, qui fait ça de façon efficace. Il aura vraiment le fun à jouer.
Ouais, je te le conseille fortement. Moi, à chaque fois que je vais dans le groupe de jeu, ces temps-ci, je veux y rejouer, vu que c'est 45 minutes. Donc, on peut jouer à ça, puis après ça, on peut jouer à d'autres choses.
On va conclure la section sur nos expériences de jeu en parlant de Murano, un jeu pour 2 à 4 joueurs sorti en 2014, créé par Inca et Marcus Brand, publié par Mayfair Games. Et le but est d'accumuler le plus de points de victoire.
Dans le fond, dans le jeu, on va avoir... La mécanique du jeu, c'est une mécanique de sélection d'actions avec des petites gondoles tout le tour du plateau de jeu qui va nous permettre de sélectionner les actions qu'on peut faire. Dans le jeu, on va placer des tuiles de bâtiments sur les différentes îles de Murano. Et ces différents bâtiments-là vont nous apporter, avec les actions, d'autres actions qu'on va choisir, des points de victoire. Donc, il y a différents bâtiments comme des commerces, que s'il y a des visiteurs aussi, on va faire plus, on va pouvoir aller chercher de l'argent qui ensuite va nous permettre de faire des points de victoire avec d'autres actions. Donc, il y a vraiment une panoplie d'actions qu'on peut faire dans le jeu. Il faut aussi, on a des cartes d'objectifs à réaliser pour la fin de la partie et ces cartes-là, on va les chercher dans le fond avec la sélection des actions. C'est une des actions, la première carte d'objectif nous coûte 1 $, la deuxième 2 $, troisième 3 $. Donc, plus on va en chercher, plus ça nous coûte cher, mais plus on va peut-être pouvoir faire de points à la fin de la partie. Et pour pouvoir faire les points, il va falloir placer un de nos gondoliers sur le port de l'île qui, en question, répond à un de nos objectifs. Par contre, ça peut être d'avoir 5 bâtiments de telle couleur. Donc, si on a notre gondolier à cet endroit-là, ben, on va pouvoir faire les points avec cette carte-là. Si on n'est pas présent, on ne pourra pas faire les points avec cette carte-là à la fin de la partie. Donc, il faut penser à ça tout au long de la partie. C'est encore une des actions. Et à chaque port, il y a des parts des couleurs des différents joueurs. Et si on le place sur notre port à nous, ça nous coûte moins cher, je pense, 1 $. Par contre, si on le place sur un des autres joueurs, si par exemple notre place a été prise par un des autres joueurs, ça nous coûte 3 $. Donc, parce qu'on peut quand même placer 2 gondoliers sur la même île pour faire des points avec 2 cartes différentes. En gros, moi, j'ai joué 2 fois à ce jeu-là. La première fois, je l'avais joué, j'avais beaucoup apprécié. C'est pour ça que lorsqu'on est allé à la revanche, j'ai décidé de le montrer à Marilou vu que je connaissais les règles. Donc, d'y expliquer le jeu. Puis je pense qu'elle a beaucoup apprécié aussi. Donc,
Ouais, tu m'avais déjà dit, ah, je suis sûre que tu aimerais ce jeu-là, puis effectivement, je l'ai bien aimé. C'était vraiment très simple. On sélectionnait l'action, puis on faisait notre action, et ça finissait là. Mais il y avait des objectifs secrets. Donc, à la fin de la partie, c'était très serré. J'étais certaine que j'allais gagner, mais finalement, Jean-Philippe a remporté. Mais non, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, puis j'ai hâte d'y rejouer.
Alors, c'était le jeu Murano.
On passe maintenant à la section magasinage du podcast, où on va vous parler de nos derniers achats qu'on a faits et des achats qu'on pense peut-être faire dans le futur. On a fait 2 acquisitions dernièrement, Jean-Philippe et moi, et David aussi a un jeu dont il va nous parler. On n'entrera pas dans les détails, c'est juste pour vous tenir au courant de notre collection. Si jamais il y a des jeux là-dedans qui vous intéressent et que vous aimeriez qu'on en parle, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir. Mais pour l'instant, ces jeux-là, on n'a pas eu le temps de les essayer beaucoup, donc on réserve notre jugement pour un prochain épisode du podcast. On pourra vous en parler plus. Le premier jeu qu'on a à vous présenter, c'est Decent Journeys in the Dark. Un jeu pour 2 à 5 joueurs sorti en 2012. C'est un jeu d'aventure où on incarne des personnages, des héros, et où il y a un joueur aussi qui incarne le maître du donjon, qui va faire apparaître des monstres et chacun a des objectifs à faire dans des scénarios. Et les personnages et les monstres et tout ça ont chacun des pouvoirs spéciaux. Et c'est aussi un jeu qu'on peut jouer en campagne, c'est-à-dire que de scénario en scénario, on améliore nos personnages, on ramasse des items qu'on peut conserver pour la prochaine partie. Jusqu'à date, on a joué 2 fois ensemble, puis on a aussi essayé le jeu avec une application, ben je l'ai essayé en solo, là, avec une application qui est disponible pour tablette. Dans le fond, ça permet de jouer au jeu de façon coopérative ou en solo contre l'application. Donc l'application va jouer le maître du donjon et nous, on peut essayer de le battre. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai hâte de l'essayer avec Jean-Philippe en coop contre l'application. L'application est vraiment très bien faite. On pourra vous en parler plus tard.
Ouais, très content de cette nouvelle acquisition-là. Je sais que Marigou voulait un Dungeon Crawler, puis c'est lui qu'on a décidé d'acheter. Puis moi, je suis très content. J'ai beaucoup apprécié les 2 premières parties qu'on a jouées. juste rappeler, c'est la deuxième édition qu'on a acheté. Dans le fond, il y a une deuxième édition de ce jeu-là qui est sorti. Et le jeu présente tellement d'expansions, donc beaucoup d'ajouts qu'on va pouvoir faire au cours de nos parties pour ajouter encore au jeu.
Je ne l'ai pas essayé, mais j'ai joué à son petit cousin, la version Star Wars, Imperial Assault, puis c'est vraiment... On a vraiment trippé là, à faire la campagne. C'est vraiment une des plus belles expériences de jeu là, qu'on a eues dans les dernières années. Là. Vraiment super comme jeu. Ça, j'ai vraiment adoré ça.
Puis à combien de joueurs toi tu jouais?
On a joué à 5.
Okay.
J'incarnais le maître du donjon dans la version Star Wars, c'est l'Empire. Mm-hmm. Donc j'incarnais l'Empire. J'avais 4 joueurs qui incarnaient les rebelles. Puis dans le fond, ils jouaient contre moi. La campagne était vraiment très serrée. Ça s'est décidé sur la dernière attaque, savoir qui gagnait la campagne. Ouais. Alors, non, vraiment, c'était trippant.
Un autre achat qu'on a fait, c'est l'extension aux ordres du jeu Les Poilus. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs sorti en 2016, justement, qui vient tout juste de sortir. Je l'attendais quand même, pas nécessairement avec impatience, mais j'attendais pour jouer la version solo qui est incluse dans cette nouvelle... dans cette extension. Et jusqu'à maintenant, j'ai seulement essayé la version solo de cette extension-là, qui je trouve très intéressante. Je l'ai joué 2 fois, donc on va contrôler 3 poilus. Et on a une main de 3 cartes. Et à chacun des joueurs, on va jouer une carte. Et après ça, il faut décider si on remet notre main à 3 cartes. Ou si on décide de ne pas reprendre de cartes, ben on ne pourra pas d'en prendre pour le reste de la mission. Donc, ça veut dire qu'on va écouler beaucoup moins de cartes. Dans les 2 premières parties, j'ai pas réussi à gagner. Encore une fois, un jeu très difficile. La mécanique de support est très bien faite. Dans le fond, on a 4 tuiles. Une qui supporte personne, une qui supporte le joueur de droite, gauche et centre. Et dans le fond, on peut, lorsque les 4 tuiles sont passées, on va les remélanger. Donc, au cours des missions, on va savoir... peut-être lequel va être supporté, donc on va y mettre peut-être des cartes coup dures plus désagréables qu'on va être capable de se débarrasser tout de suite après la fin de la mission. Donc c'est ce que j'ai aimé dans cette extension-là, et j'ai hâte de jouer avec les... Dans le fond, ils ont ajouté des cartes mission qui, au lieu de décider en début de mission combien de cartes qu'on pige, mais là, il y a la carte mission qui nous détermine le nombre minimal de cartes qu'on doit donner à chaque joueur. Et il y a aussi des effets négatifs ou positifs à la mission, donc qui rajoutent encore de la difficulté. Ils ont aussi changé quelques éléments dans les règlements, comme lorsqu'on est supporté, on peut reprendre notre porte-bonheur et se débarrasser de cartes coup dures. Donc, il y a certains ajustements qui ont été faits et que j'ai hâte de voir si ça augmente la difficulté ou si ça l'a amoindri.
Ouais, mon dernier achat pour ma collection est le jeu Quadropolis. C'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs qui est sorti récemment. C'est un jeu de placement de tuiles où on doit construire une ville et marquer le plus de points possible. Les différentes tuiles vont faire plus de points dépendamment des autres tuiles qui les entourent ou du nombre d'étages que le bâtiment va avoir. Au début de château, on va choisir un de nos architectes puis on va pouvoir aller recruter une des tuiles sur le plateau central et ensuite la placer là, en suivant certaines règles de placement. Ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il y a 2 modes de jeu. Donc, on a le mode classique, qui est vraiment le mode de base, qu'on peut initier n'importe qui avec ce jeu-là, puis c'est vraiment merveilleux. Puis, on a le mode expert, qui est un peu plus complexe, qui donne un peu plus de liberté, de choix, pour des joueurs un peu plus expérimentés, qui est vraiment le fun. Effectivement, j'aime mieux le mode expert, pour avoir essayé les 2. J'ai pas été déçu de cet achat-là. Par contre, c'est pas un jeu qui est donné, donc il est quand même cher pour un jeu de placement de tuiles, là. Mais c'est un jeu de Days of Wonder. La qualité des composantes est exceptionnelle encore une fois. Sur le côté artistique, le jeu est vraiment beau, vraiment coloré. Donc, une belle réussite, le jeu Quadropolis.
C'est un jeu qu'on avait essayé aussi dernièrement, qu'on avait beaucoup aimé, puis on en a parlé dans le podcast déjà. Mais justement, comme tu dis, je trouvais que le prix était un peu élevé. Je pense que c'est pour ça qu'on ne l'a pas encore acheté. Ouais. Sinon, c'est certain qu'il serait dans notre collection parce qu'on a vraiment trippé sur ce jeu-là. Ouais.
Puis on pense que ça va être un bon jeu encore là, familial, ouais. Parce qu'il y a quand même des bons atouts. On aime ça jouer à... Ticket to Ride, mais je pense que c'est le fun de faire changement. Mes parents veulent toujours jouer à Ticket to Ride, mais je pense que ça pourrait être une belle option, là, ce jeu-là. Mais on n'a pas essayé la version familiale, mais tu dis, je pense qu'il est quand même assez...
Ouais, va être parfaite pour jouer en famille, initier des gens au jeu de société. Il y en a beaucoup qui parlent sur Internet que ça va être un petit peu le nouveau Ticket to Ride, que Days of Wonder mise un peu là-dessus pour faire cette nouvelle franchise-là.
C'est la même compagnie.
C'est la même compagnie.
On n'était pas dans le champ avec notre prévision que ça allait plaire à notre famille. Donc, c'est ce qui conclut notre magasinage de dernière semaine.
On va terminer l'épisode en vous présentant, comme à l'habitude, un projet québécois. Aujourd'hui, c'est le jeu Castle Loot qui est présentement sur Kickstarter. La campagne se termine le 31 juillet. Il y avait eu une première campagne pour ce jeu-là, mais elle n'a pas atteint son objectif de financement, donc le concepteur a décidé de la relancer. C'est un jeu d'action et de dextérité. Il y a des cartes qui sont retournées sur la table avec différentes images dessus, puis tout dépendant de la carte qui sort, il faut pointer un symbole qui va être sur la table, donc il faut être le plus rapide à faire l'association entre les deux cartes, entre la carte et le symbole, pour pouvoir essayer de remporter des points. Une fois qu'on a gagné la manche, on ramasse la carte, puis c'est le tour de l'autre joueur de retourner des cartes. Puis, dans le fond, à la fin de la partie, c'est celui qui a le plus de points, parce qu'il y a des cartes qui valent plus de points que d'autres. Si c'est votre style de jeu, on vous invite à aller voir ça sur Kickstarter. C'est sûr que c'est pas un jeu avec énormément de stratégie, mais c'est un jeu qui pourrait plaire aux familles, des choses comme ça. Donc, on vous invite à aller voir sur Kickstarter Castle Loot.
Donc, c'est ce qui conclut cet épisode. Je tiens tout d'abord à te remercier, David, d'être resté pour tout le podcast et d'avoir participé à l'entrevue.
Merci pour l'invitation, Jean-Philippe et Marie-Lou. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube à Professeur Board Game. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Twitter. On a des belles surprises qui s'en viennent pour vous autres pendant l'été.
C'est certain qu'on va suivre ça, tout le développement de ta chaîne avec tout ce que tu nous as annoncé. Je vous invite à nous laisser des commentaires sur l'épisode. Si vous avez aussi des questions pour David, vous pouvez les laisser en commentaire. Aussi, allez nous voir sur notre site web à boardgamequebec.com et suivez-nous aussi sur Facebook et Instagram. Le podcast est aussi disponible sur iTunes et Google Play Music. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine!